Levez-vous, chrétiens, entonnez ce cantique de louange. Nous voulons être heureux car le Seigneur a fait de grandes choses en nous. Nous voulons lui consacrer des reconnaissances. Lui adresser des reconnaissances. L'agneau de Dieu est digne, est véritablement digne. Que chaque cœur l'honore éternellement. Que chaque cœur l'honore éternellement. Où étions-nous? Nous étions éloignés de Dieu et de sa grâce. Où sommes-nous maintenant? Nous sommes rachetés par le Seigneur. Et nous nous trouvons sur le chemin de la vie éternelle, le chemin étroit. Qui nous amène au Sauveur. Sur lequel nous chanterons des psaumes éternellement. Ici, personne ne remarque ce que nous serons. Nous semblons pauvres. Et ne passons pas beaucoup de difficultés. C'est ainsi que nous marchons et portons le propre du chemin étroit. Nous sèmons avec des larmes. Nous sèmons avec des larmes. Nous récolterons avec joie. Mais nous sommes heureux car lui, le Seigneur, sera toujours avec nous. Il nous entoure, nous les siens, ici, ne nous abandonne jamais. Et même si le monde entier nous menace de guerre, la victoire est de notre côté, car nous demeurons avec lui. Bientôt tout sera surmonté. Vous, combattants, allez rafraîchir de l'avant, car nous entrerons avec des cantiques dans la joie, avec des cantiques de louange adressés à l'agneau. À lui qui nous a délivrés soit la louange, lui l'agneau, à lui soit la louange, la reconnaissance pour toute l'éternité. Dans l'éternité. Amen. Je voudrais lire une parole de Dieu avant la prière dans Hébreux 3. Cet homme de Dieu ici écrit les paroles suivantes aux Hébreux. Dans Hébreux 3, à partir du verset 1 déjà. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ les confisque sur sa maison et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Que Dieu puisse accorder sa grâce pour que réellement nous puissions retenir fermement jusqu'à la fin la confiance et que nous puissions tout le temps regarder au Seigneur et être prêts quand il appellera, que nous puissions le suivre. Qu'il puisse nous accorder sa grâce encore ce soir, que nous puissions suivre sa parole, ouvrir nos cœurs et recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Je crois certainement qu'il veut nous rendre heureux, nous rendre joyeux, nous bénir, nous accorder ce dont nous avons besoin. Si nous avons des désirs, nous voulons lui exprimer cela dans la prière, bien aimés frères et sœurs. Nous voulons maintenant nous lever pour le faire. Père céleste, fidèle, encore une fois, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité, pour ta conduite et ta directive, pour l'appel que tu as fait retentir et que tu nous as adressé. Tu as fait de nous ton peuple. Tu as pardonné nos péchés. Tu nous as purifiés de toute tache, de toute ride. Tout ride est ainsi que nous regardons à toi et comme cet écrivain ici le dit. C'est pourquoi vous, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons à Jésus. Alléluia. Loué et remercié sois-tu. Ce soir encore, nous fixons nos regards sur toi, Seigneur, et pas seulement ce soir, mais dans tous les âges, dans tous les temps, nos pensées sont tournées vers toi et notre louange et nos cantiques, nos bouches devraient te louer et t'exalter. Reçois la louange, l'adoration et la reconnaissance, toi, Saint Dieu fidèle, dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous voulons entonner ce cœur, louange, honneur et adoration.
Lob, Ehre, Preisung und Anbetung sei dir, aus dankbarem Herzen, Herr Jesus.
Louange, honneur et adoration de tout mon cœur, Jésus, pour toutes tes preuves de grâce et de fidélité que tu prouves toujours de nouveau.
Lob, Ehre, Preisung und Anbetung sei dir, aus dankbarem Herzen, Herr Jesus, von mir, für all deine Gnaden und all deine Treuen, die du stets erweisest aufs
Neue. Amen. Nous nous asseyons, s'il te plaît, frère Franck. Remercié soit le Seigneur. Moi aussi, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Nous sommes venus dans une grande attente et avec assurance, Dieu aura pour chacun quelque chose. Alors que nous étions dans la pièce de prière et que entre frères, nous remettions cette réunion entre les mains du Seigneur. C'était notre requête que tous ceux qui sont ici puissent recevoir ce dont ils ont besoin et selon leur requête, que ce soit salut, que ce soit guérison, quoi que ce soit. Un bien-aimé frère me disait, frère Franck, tu pries pour tous les jeunes, parfois, qui viennent à la réunion, et ce serait mon désir, c'est ainsi qu'il le disait, ou bien alors notre désir, les deux étaient présents, que aussi ils soient priés pour ceux qui ne viennent pas encore à la réunion, qui restent à la maison, qui ne viennent pas encore à la réunion, qui restent à la maison, ceux à qui le cœur n'a pas encore été touché par la parole de Dieu. Et j'ai promis qu'ensemble, nous allons prier que tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle, qu'ils puissent rapidement être appelés à sortir et qu'ils sortent et que le nombre soit plein et que le Seigneur puisse revenir. Sentez-vous à la maison et comme le frère Rousse déjà le disait, nous pensons aussi à tous ceux qui ne pouvaient pas venir, qui à cause des circonstances du temps de l'hiver ont été empêchés ou alors pour une autre raison. Que Dieu le Seigneur puisse réellement bénir tous ceux qui sont ici, bénir tous ceux qui maintenant écoutent et qui regardent dans le monde entier. Nous sommes seulement une partie de toute l'Église. Toute l'Église vient de tous les peuples, les langues et les nations et elle est partout éparpillée. Elle se trouve partout, c'est ainsi que dans le monde entier, c'est ainsi que nous avons la parole de Dieu qui est prêchée et qui atteint les extrémités de la terre. Chaque lettre, chaque épître que Paul a écrit ont atteint les extrémités de la terre. Chaque évangile qui a été écrit a atteint les extrémités de la terre. Quel est le dernier état? Je crois 2800 langues et dialectes existent dans lesquels au moins les évangiles ont été traduits. Et ensuite, aussi beaucoup de langues dans lesquelles les Saintes Écritures ont été traduites. C'est ainsi que nous remercions Dieu de ce que chaque message qui aussi depuis la Réformation a été accordé par Dieu à l'Église a atteint les extrémités de la terre, a atteint tous les peuples, les langues et les nations. Même si auparavant, avant la Réformation, il y a eu quelques sacrifices qui ont dû être payés, Jan Hus, Wycliffe et tous ces hommes de Dieu. Mais ensuite a suivi la Réformation, le réveil puissant, et voilà que le message de la grâce, de la justification a atteint l'humanité. De la même manière, dans le prochain réveil sous John et Charles Wesley, et ensuite fini, Moody et tous ces hommes ont suivi, et aussi les différents messages qu'ils ont apportés ont atteint les extrémités de la terre. Celui qui a déjà été dans 12 États islamiques, dans l'un des 12 États islamiques, peut témoigner que même dans ces États islamiques-là, toutes les communautés qui existent dans d'autres pays dans le monde et qui existent dans le monde, existent aussi au Soudan, existent aussi en Éthiopie, existent aussi en Égypte, existent aussi dans tous ces pays et partout. Mais maintenant, pour ici souligner l'importance suivante, aussi le réveil qui a eu lieu il y a 100 ans d'ici le réveil pentecôtiste a aussi atteint les extrémités de la terre. Et ensuite, le dernier point qui est à mentionner, le réveil que Dieu, après la Deuxième Guerre mondiale, a accordé et a directement mandaté pour cela, commissionné pour cela, frère Branham. Tous les autres ont reçu une inspiration. Mais frère Branham, comme Moïse et comme les prophètes, a reçu un mandat direct, un appel de la part de Dieu personnellement, directement. Et ce message de Dieu, ce message divin, doit atteindre les extrémités de la terre. Maintenant, encore rapidement, pour venir à parler du dernier mois, j'ai entrepris ce voyage en Bolivie et au Pérou. Et pour finir, au Chili. Et je dois dire que c'était réellement richement béni. Mais avant que je vienne rapidement à parler de cela, je ne peux pas oublier de remettre toutes les salutations du frère Wallström, des frères et sœurs de la Finlande, oui, de toute l'Europe, et du frère Graf, du frère Barillier et de tous les frères qui ont appelé, de Nairobi, de Kapstadt, du Bénin, de l'Afrique, de partout, des frères ont appelé. Le frère du Bénin me disait, remets les salutations à l'église avec Apocalypse chapitre 21 du premier verset jusqu'au verset 7. Vous pouvez tout à l'heure lire ce passage. Nous sommes réellement liés avec tous. Le frère Müller de l'Autriche remet ses salutations. Comme je viens déjà de le dire, tous remettent très fraternellement leurs salutations à tous. Et avant que maintenant je fasse quelques remarques sur le voyage en Amérique du Sud, je voudrais demander que les frères et sœurs Lackney puissent nous chanter le cantique qu'ils ont aujourd'hui, il y a 14 jours d'ici, chanté alors que Dieu avait fait de grandes choses. Venez déjà devant, le chœur, nous allons sûrement tous pouvoir le chanter. Les frères sœurs Lackney avaient eu cette gentillesse d'oser ce voyage en Amérique du Sud. Et c'est ainsi que nous avons ensemble passé le temps là-bas. C'était vraiment des moments merveilleux et des moments bénis, des jours bénis. Venez plutôt devant, ce serait mieux. Venez simplement devant, ce serait mieux. Seigneur, dans ce temps où l'enfer est plein de colère et se déchaîne et veut me causer des embûches, que tu puisses me garder sous le sang. Laisse-moi être sa lumière dans ce monde. Laisse-moi être ta lumière dans ce monde. Je prie pour une nouvelle expérience, une nouvelle rencontre avec toi, car c'est seulement par toi que je serai vainqueur. Accorde-moi ta force et révèle-toi d'une manière nouvelle à moi. Enveloppe-moi dans ta grâce. Seigneur, tu sais comment est-ce que moi aussi j'ai été souvent fidèle et infidèle. Et je me tiens devant toi maintenant dans la honte. Seigneur, d'une manière nouvelle, je t'amène ma vie. Je vois tous mes manquements. Je te prie pour une nouvelle expérience avec toi. C'est seulement par toi que je serai vainqueur. Accorde-moi ta force, révèle-toi d'une manière nouvelle à moi. Enveloppe-moi dans ta grâce. Ramène-moi au premier amour. Accorde-moi un cœur brisé. Délivre mes pensées des choses de cette terre et de ce monde. Et lie-moi toujours au ciel. Je prie pour une nouvelle rencontre avec toi, Seigneur. Car c'est seulement par toi que je serai vainqueur. Accorde-moi ta force, révèle-toi à moi. Enveloppe-moi entièrement dans ta grâce. Ça, nous l'avons sûrement de tout notre cœur chanté avec eux. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que cela est possible. Et comme déjà cela a été mentionné, c'était un voyage particulier. Déjà les deux premières fois au Chili où j'y étais, c'était un nouveau commencement et ensuite une continuation. Et maintenant, Dieu, encore une fois, a accordé sa grâce. En tout, nous avons maintenant de ce groupe exactement baptisé 176 frères et sœurs bibliquement baptisés au nom du baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la plupart lisent aussi les brochures, les prédications de frère Branham. Et imaginez-vous, j'ai rencontré même un frère qui en 1955 était à Karlsruhe dans les réunions de frère Branham ici en Allemagne. Et il avait demandé qu'il puisse une fois lors des repas s'asseoir à côté de moi. Et il m'a dit, frère Franck, mon devoir était, après chaque réunion que frère Branham avait tenue, de chercher et de rassembler les béquilles pour les rassembler et les faire sortir. Les béquilles de ceux qui avaient été guéris. Et je me suis bien sûr très, très réjoui de cela. En tout, j'ai rencontré 4 frères au Chili qui, en 1955, ont vu les réunions de frère Branham à Karlsruhe. Et j'ai pensé à moi-même, on peut s'asseoir entre 1000 personnes, parmi 1000 personnes, il y avait eu 12 000 personnes, 18 000 personnes, le dernier dimanche, c'était 22 000 personnes réunies. Et parmi tous ces hommes, il y avait une personne qui était assise toujours au troisième rang devant, à l'extrême droite, devant et parfois au deuxième rang. Et bien sûr, à cette personne, ces réunions l'ont puissamment secoué. Et c'était moi dans ce cas. Mais comme cela a lieu, comme cela est, on remarque, comme nous tous, nous étions chacun de nous quelque part. Et Dieu aussi, pour la première fois, a touché notre cœur et sa parole était directement adressée à nous. Et c'est ainsi que maintenant nous avons aussi de nouveau vu que seulement une partie jusqu'à maintenant a accepté et reçu le message et la parole de l'heure, et nous devrions continuer à prier pour que le reste de cette église puisse ouvrir le cœur et recevoir la parole de l'heure pour que tous ceux qui sont réunis là-bas puissent recevoir la grâce de Dieu. En Bolivie, j'ai d'une manière nouvelle vu que la respiration s'est presque coupée. Ma respiration s'est presque coupée. Je crois que Krefeld est situé à 40 mètres, ça dépend d'où on se trouve, à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et La Paz se situe à 3520 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et vous pouvez bien vous imaginer que là-bas, l'air n'est pas du tout épaisse. Et après, j'ai dû m'asseoir après les réunions. Et j'ai dû donc, comme ça, étant assis, dire au revoir aux frères et sœurs qui passaient. Ça peut arriver. L'air était vraiment très difficile et le poumon a eu des difficultés. Mais que le Seigneur soit loué, il m'a accordé la grâce de surmonter tout. Et au Lima, nous avons pu acheter des appareils pour nos émissions de télévision là-bas. Et nous avons deux fois dans la semaine, à chaque fois 30 minutes de télévision, de réunion de télévision. Et nous pouvons atteindre beaucoup de milliers et de millions de personnes avec la parole de l'heure. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, en tout, il conduit toutes choses d'une manière merveilleuse. En ce qui concerne donc les choses qui concernent le développement de ce qui se passe sur Terre, on pourrait venir à parler de beaucoup de choses. Je voudrais seulement ici souligner deux points de ces événements concernant le Conseil mondial des Églises. Le titre, le Conseil mondial des Églises exige le boycottage par les produits appelés Sigla. Toutes les sociétés qui ne se trouvent pas dans le territoire, ou bien alors les sociétés qui ne se trouvent pas dans le territoire, qui existent, appartenaient à Israël depuis 1949, doivent boycotter Israël pour que à Israël soit récupéré les territoires qu'ils ont reçus depuis 1949. Donc c'est le souhait de l'Église presbytérienne des États-Unis. Seulement pour votre information, qu'il y a 342 églises protestantes et orthodoxes qui sont membres du Conseil mondial des Églises. Ça, ce n'est pas des choses que nous avons seulement dit ici. Cela est réellement ainsi. Et nous remarquons que le Conseil mondial des Églises, de nouveau, élève sa voix, et cela a eu lieu du 15 au 22 février 2005. Et comme je viens de dire, le décret a été fait. Il existe que toutes les sociétés qui en Israël existent puissent boycotter Israël si ces sociétés-là ne sont pas, si Israël n'est pas dans les limites qui existaient depuis 1949. Ces limites-là, ces frontières n'étaient même pas des frontières, seulement des lignes qui avaient été faites pour montrer le cessez-le-feu, pour montrer les surfaces où il n'est pas permis de tirer. Tout cela pour récupérer les territoire qu'Israël a reçu depuis 1949. Donc, il y a encore un deuxième point. C'est un pasteur catholique, donc c'est des émissions catholiques de la télévision. Et cet homme l'a dit, il n'existe pas un Dieu éternel unique. Et il n'existe pas une véritable foi unique. Et ensuite, cet homme-là, en tant que pasteur, donc à la télévision, est bien sûr loué et applaudi. Ensuite, le titre. Donc, cet homme-là de la télévision prétend que Paul se trompe énormément. Et maintenant arrive la prétention énorme de ce prêtre. Il dit que le temps est arrivé où nous devons nous éloigner complètement et nous détourner, tourner le dos au sacrifice d'expiation du Christ. Au sacrifice d'expiation du Christ. Il dit que le temps est arrivé où nous devons tourner le dos et nous éloigner complètement, dire au revoir et quitter et abandonner le sacrifice d'expiation du Christ. Et cela est dit et a lieu dans notre pays. Sûrement que dans le monde entier, l'état religieux n'est pas meilleur. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui dans ce temps peut croire, c'est déjà un cadeau. Et celui qui peut croire, comme le dit la Sainte Écriture, a un double cadeau, a reçu un double cadeau de la part de Dieu. Le frère Rousse a utilisé, a lu cette parole merveilleuse d'Hébreux 3 de la part de notre bien-aimé Seigneur qui est établi sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Nous, en tant qu'Église, je voudrais lire pour cela, le verset parallèle dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, et cela dans le chapitre 3, versets 14 et 15. 1 Timothée, chapitre 3, verset 14 et verset 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. De telles paroles doivent être observées et nous les croyons. Nous croyons que Dieu a une Église sur terre qui est sortie limite de Babylone, des frontières de Babylone, des territoires de Babylone et de toute la confusion s'est séparée de tout et pour former la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant et qui forme la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant dans laquelle Jésus-Christ marche tel qu'il est écrit au milieu des sept chandeliers d'or. Et ici, il est bien dit que nous, l'Église, nous sommes l'Église. L'Église du Dieu vivant, rachetée par le sang de l'agneau et déterminée à porter les vérités de la parole de Dieu, les vérités présentes, comme c'est écrit aussi dans 2 Pierre, car tel qu'il est écrit ici, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est porteuse des vérités divines. Elle porte la responsabilité que la sainte parole de Dieu soit crue telle qu'elle est sortie de la bouche du Dieu vivant, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 15. Versets 2 et 3, qu'elle soit crue dans cette forme-là et soit mise en pratique telle que nous l'avons entendue. 1 Corinthiens 15, versets 2 et 3. Nous avons aussi dans Éphésiens 4 cette écriture où Paul montre et adresse cet écrit à l'Église et se tourne à l'Église et s'adresse à elle et dit ici dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ensuite suit l'objectif de ce ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ensuite, de nouveau, suit la raison. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais, oui, verset 14. Ici, nous pourrions réellement continuer et continuer à lire jusqu'au verset 16 pour voir quelle requête, quelle pensée profonde touchait son cœur et comment est-ce qu'avec tout son cœur, dans l'Église et avec l'Église, il était lié. Son objectif, son but était que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu dans l'époque dans laquelle ils vivent appartiennent aussi au corps du Seigneur et voient donc la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, nous avons donc ici la description de l'Église. Et bien-aimés frères et sœurs, nous avons reçu un message divin pour que l'Église, de nouveau, soit ramenée à l'état primitif du commencement. Et que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de parler d'un message et en étant en train de parler du message. Nous comprenons mal les différents points et nous les sortons de leur contexte et appelons cela encore message. Non, mais c'est pour que réellement nous soyons conduits, nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu jusqu'à que nous revenions à l'état primitif de l'Église du Nouveau Testament par la grâce de Dieu. D'abord, 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Par un seul esprit, baptisé dans un même corps. Le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les uns comme apôtres, deuxièmement, donc des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir et de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Maintenant, suit la question. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? Nous remarquons comment est-ce que Paul a exprimé la multitude des dons et des ministères l'un après l'autre. Et ensuite, il nous représente devant les yeux que ce ne sont pas tous qui peuvent être apôtres, que ce ne sont pas tous qui peuvent être docteurs, que ce ne sont pas tous qui peuvent être pasteurs, que ce ne sont pas tous qui ont tous les dons, mais chacun doit, selon sa part, et participer au corps du Seigneur, comme c'est écrit au verset 27, après le verset 13, que le corps du Seigneur soit ainsi édifié, bâti, car c'est à cela que tous les membres ont été donnés à ce corps, pour qu'ils puissent se serrer la main, se tendre la main d'association les uns avec les autres, et pour travailler les uns avec les autres. Dans Tite, le premier chapitre, Paul, ici, à son compatriote, a accordé une exhortation pour ici lui représenter devant les yeux l'importance des choses. À saisir, Tite chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Tite chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Ici, nous avons déjà la parole promis au verset 3, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Nous avons ici une description de l'appel divin et de son objectif. De quoi il s'agit aujourd'hui en fait? Est-ce qu'il s'agit seulement de dire à l'humanité que Dieu a accompli ses promesses et a envoyé dans cet âge prophétique son prophète? Ou alors, est-ce qu'il s'agit de ce que le message divin, plutôt, à nous tous, puisse produire l'effet pour lequel il a été envoyé? Et là, nous sommes déjà dans Ésaïe 55, que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne revient jamais vide à lui, si ce n'est qu'elle ait accompli sa volonté et ses desseins. À cela, nous pensons à Éphésiens 1, le verset 11. Il est parlé aussi des desseins de Dieu dans Éphésiens 3 aussi. Et je crois que 90% à l'intérieur de ce message montre du doigt tous et regarde en arrière au ministère de Frère Branham. Et j'ai encore aujourd'hui lu une citation, je pourrais ici même nommer le nom de la personne, où il est prétendu que le Seigneur se trouve dans la première phase de 1 Thessaloniciens chapitre 4, que le message c'est le signal donné et que le Seigneur déjà se trouve dans cette phase du retour. Non, ce n'est pas correct. Il y a deux choses. Il y a le cri de réveil, et il est écrit dans Matthieu 25, c'est-à-dire là où toutes les vierges se sont endormies, et à minuit, le cri a retenti et Et maintenant, retentit, voici l'époux, levez-vous pour aller à sa rencontre. Mais seulement parce que frère Branham a fait une unique citation qui n'a pas été correctement ordonnée dans la Bible par ses frères-là. C'est pour cette raison que ils disent que le Seigneur a quitté le trône de la grâce et que le trône de la grâce est devenu trône de jugement. Le Seigneur est maintenant dans la première étape de son retour et il est parmi nous. Je vais réellement devoir dans tout le sérieux écrire sur tous ces différents points parce que nous avons dans Éphésiens 4 lu que nous ne pouvons pas comme ça être flottés et ballottés par les différents vents de doctrine faux. Nous n'avons pas le droit de l'être. Nous avons besoin de l'enseignement biblique qui est seulement fondé sur les saintes écritures, la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que, justement, cette prédication est importante. Cette sorte de prédication biblique sont importantes parce que aussi en relation avec ce que nous avons lu. L'Église du Nouveau Testament est elle-même la colonne et l'appui de la vérité. Vérité, c'est seulement la parole de Dieu. Mais nous sommes porteurs de la parole, porteurs des vérités divines. Et il n'y a rien qui a le droit de s'infiltrer dans l'Église appelée à sortir, l'Église du Dieu vivant. Il n'y a pas le droit de trouver qu'il y ait des choses qui ne sont pas vraies et des doctrines qui ne sont pas vraies dans l'Église du Dieu vivant, qui pourraient nuire à l'Église. Et cela peut être aussi suivi. Chaque enseignement qui n'est pas biblique crée des divisions, crée des nouvelles directions. Et chaque enseignement qui est biblique unit le peuple de Dieu sous un seul chef, sous Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensuite, les ministères peuvent s'effectuer et Dieu peut bâtir son Église. Et ainsi, toute l'Église reçoit quelque chose d'édifiant et peut profiter de cela. Alors, si nous sommes en train de parler du message, s'il vous plaît, il faut que ce soit le message de Dieu et pas des interprétations et des citations qu'on a sorties de leur contexte. Et seulement ces quatre versets de la parole de Dieu, les premiers de 1 Jean, le premier chapitre, déjà ici lu plusieurs fois, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Et ça, c'est le message que nous avons reçu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et maintenant, cela est adressé à nous tous, car tous doivent se sentir concernés et être concerné. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ici, nous avons réellement un exemple de ce que signifie le mot message. Message apporte lumière. Le message apporte la lumière et apporte la vie. Il dit, ma parole est esprit et vie. Et c'est ainsi que nous passons des ténèbres à la lumière, de la mort, à la vie, de la puissance du diable, au royaume de son fils bien-aimé, car les paroles de Dieu sont esprit et vie. Mais maintenant ici, écoutez ce qui est écrit au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. directement la première question. Pourquoi est-ce que, à l'intérieur de ce message de la fin des temps, toutes sortes de directions et tous n'ont pas de communion mutuelle les uns avec les autres? Si les Saintes Écritures disent ici que, et d'une manière assez claire, que si nous prétendons marcher dans la lumière, c'est-à-dire dans la lumière que telle que Dieu l'a accordé, 1 Corinthiens 15, verset 2 et 3, telle que Dieu l'a accordé, alors nous avons communion mutuelle les uns avec les autres. Et si quelque part il y a un problème, et que cette communion-là est menacée par ce problème, donc alors la deuxième partie du verset 7 trouve son accomplissement. Et qu'il y a un problème donc qui empêche la communion les uns avec les autres. Alors ici, nous devons considérer ce verset. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc la communion avec Dieu, la communion les uns avec les autres, est fondée sur le pardon. Et Dieu, en Christ, nous a pardonné. Et nous pardonnons les uns les autres là où il y aurait quelque chose à pardonner. Mais ici, il y a réellement le point. Celui qui marche dans la lumière et aussi dans le message de la fin des temps va avoir communion avec toutes les communautés qui aussi marchent dans la lumière et sont en accord avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'homme sur cette terre qui pourrait annuler la parole de Dieu, qui aurait le droit de dire, oui, nous marchons dans un chemin particulier. C'est pas possible. Dieu n'a seulement qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, et qu'une seule vie, tout seulement un, et qu'une seule église. Et cette église unique du Seigneur est réellement la colonne et l'appui de la vérité. Donc, tel que au verset 5 nous l'avons lu, et ça, c'est le message. Et encore ici, pour mentionner cela, vous allez voir que tous ceux qui ne se soumettent pas à Dieu et font ce qu'ils veulent avec leur temps, avec tout, etc., et ils se sont rendus tous indépendants. Celui qui appartient à l'église du Dieu vivant sera baptisé par un seul esprit dans un même corps. Pour que tu n'aies plus ton chemin, mes pensées, tes pensées, mais que Dieu, avec chacun de nous, ait ses pensées, ses voies, ses chemins, tel que nous l'avons lu, jusqu'à que tous nous venons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Que font tous ces hommes, toutes ces personnes, avec tous ces précieux versets bibliques, si ils ne peuvent pas se soumettre à Dieu et simplement, comme ça, rejettent ces choses et ces vérités qui sont précieuses pour nous parce que nous les retrouvons dans la Bible. Alors nous avons dans Ésaïe, le chapitre 6, aussi cette annonce dans Ésaïe 52, au verset 7, ce qui est à comprendre de cette expression message. Dans Ésaïe 52, au verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte un bon message et qui publie la paix, qui apporte le bien en tant que message et qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et c'est seulement après que suit Ésaïe 53, le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, entre parenthèses, qui a cru au message que nous avons apporté, qui a reconnu le bras de l'Éternel, ou bien à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Et ici est le point important, que tous ceux qui réellement croient le message de l'heure divin et que ce message leur est révélé dans sa profondeur et dans son objectif divin, c'est à eux-là que le bras de l'Éternel sera aussi révélé et qu'ils le reconnaîtront et qu'ils seront reconnus. Ils seront, eux, secourus. Et nous pouvons dire qu'au temps de la grâce, Dieu nous a secourus, comme c'est écrit dans Ésaïe 49, parce que nous avons quitté nos propres voies, nos propres pensées, comme c'est écrit dans Ésaïe 55, pour nous soumettre à Dieu. Pour se soumettre à Dieu, il faut d'abord quitter ses pensées et ses voies. On ne peut pas parler d'être soumis à Dieu et de résister au diable si on a encore nos pensées et nos voies. Mais bien, nos frères et sœurs, tel que l'ordre divin existe dans la création naturelle, il faut aussi dans la création, dans la création spirituelle de la rédemption, il faut que l'ordre de Dieu existe. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Satan est celui qui vient apporter la confusion. Déjà son nom, diable, l'exprime. Il est celui qui apporte la confusion. Ensuite, nous avons la parole dans Romains, le chapitre 10, où Paul, encore une fois, fait mention de ça dans Romains, le chapitre 10, à partir du verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la prédication, à la bonne nouvelle, au message. Ainsi aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre message? Et maintenant arrive ici. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, donc vient du message, vient de la prédication, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il faut que ce soit la parole du Seigneur. Ça ne peut pas être une interprétation, ça ne peut pas être des incompréhensions, des imaginations. Il faut que ce soit très, très clair, et c'est clair. La parole de Dieu est en elle claire. Et comme déjà souvent j'ai eu à le dire, ce n'est pas tout qui est écrit dans un même chapitre. Ce n'est pas tout qui est écrit dans un seul verset. Mais tout est écrit dans ce livre. Tout est écrit dans ce livre. Et on doit justement aller de verset en verset. Et si Paul, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13, écrit, et directement ici, en tant que première chose, et élève l'importance suivante et dit que on ne doit pas les laisser dans l'ignorance. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Celui qui dit que le Seigneur est déjà dans la première étape de son retour, est déjà venu dans sa première étape, dans la première étape de son retour, il doit d'abord se représenter devant les yeux des Saintes Écritures. Mais ici est le point. Le respect devant la parole de Dieu a disparu du cœur des hommes. Et ça, c'est le grand problème qui existe sur cette terre. Selon mon estimation, Dieu nous a accordé le plein respect devant sa parole. Il nous l'a restitué, oui ou non. Dieu nous a restitué la crainte devant sa parole. Devant sa parole. Comme Paul pouvait dire à Timothée, j'aurais presque utilisé une parole qui n'est pas adéquate ici, pour ne pas dire, Dieu nous a donné un dégoût devant toutes les interprétations. On a directement, c'est comme, on a un dégoût, directement un dégoût, quand on entend, on a directement de la nausée, quand on entend toutes ces interprétations. Mais encore les trois prochains versets, au verset 14, 1 Thessaloniciens 4, car si nous croyons que Jésus est mort, car aussi certains que nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Et ensuite suit, n'est-ce pas? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, d'après nous, les vivants restés, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à, ici le mot parousie, l'avènement du Seigneur. Nous les vivants restés jusqu'à, ou bien pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Comment est-ce que, entre ceux qui sont restés vivants, le retour ait pu déjà avoir lieu, si d'abord il faut que ceux qui se sont endormis, qui sont décédés, d'abord ressuscitent. Alors, d'abord, il faut que cela se passe avec ceux qui se sont endormis et ensuite avec ceux qui vivent en Christ. Comme ici il est écrit au verset 16, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Descendra du ciel. Donc, que alors le signal donné là soit le message, s'il le veut. Mais alors, il faudrait qu'ici, qu'avant le retour du Seigneur, ce signal aille dans le monde entier. Il ne s'agit pas ici d'une interprétation, d'une révélation. Le retour du Christ n'est pas comme ça. Un homme qui viendra de New York, ou bien qui dira, voilà, c'est ici et c'est là. Non. Le même Seigneur qui est monté au ciel reviendra tel qu'il a promis. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Je lis le verset 16 encore une fois. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc il faut que, n'est-ce pas, le cri de réveil, nous savons que ce signal donné là ne concerne pas Matthieu 25, mais ici nous devons comprendre, et ses frères doivent comprendre, que avant le retour du Christ, il faut que le cri de Matthieu 25 retentisse dans le monde entier. Dans le monde entier. D'abord un signal donné, ensuite la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Le Seigneur. Et ensuite, quand ces trois choses se seront passées, ces trois choses, c'est seulement après que le Seigneur reviendra. Et ensuite, nous qui sommes restés vivants, en Christ ressusciterons premièrement. Nous qui sommes restés vivants, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est l'ordre divin dans le salut lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Je répète encore une fois que ce signal donné là de 1 Thessaloniciens 4 au verset 16, c'est soit le message, j'ai rien contre cela, s'ils le prétendent. Mais alors il faut que ce message retentisse dans le monde entier avant que le Seigneur puisse revenir. Et pas seulement retentir, il a dit qu'il faut que d'abord le rétablissement de toutes choses ait lieu selon Actes chapitre 3. Sinon il ne pourra pas revenir. Actes chapitre 3, verset 20, 21, etc. Et ceux qui prétendent que le Seigneur est déjà revenu dans le signal donné, non, il a dit que d'abord il faut que le signal donné, il faut que le signal soit donné. Il faut que le dernier soit appelé à sortir. Eux, ils prétendent que le Seigneur est revenu dans le signal donné, dans la première étape de son retour. Non, il faut que le signal soit donné, que le dernier élu soit atteint. S'il y en a qui prétendent, imaginez-vous, que en 1963, le Seigneur serait déjà revenu. Ça veut dire que tous ceux-là qui prétendent cela n'étaient même pas prêts, étaient encore même pas nés. Et ils veulent déjà donner une date de son retour, que le Seigneur est déjà descendu. Ils disent qu'il est déjà descendu dans le signal donné, alors que le signal donné n'a même pas été donné encore. C'est seulement après l'ouverture des sceaux que le cri de Matthieu 25 est devenu vivant et a retenti dans le monde entier, et que la parole est portée, et elle est l'appel divin. Le dernier cri qui retentit, le dernier appel qui retentit. C'est pas à cause de moi que je suis plein de feu, de zèle. Pour moi, il s'agit de l'église du Dieu vivant. Et l'église qui est l'appui et la colonne de la vérité. L'église où il n'y a rien qui a le droit de demeurer, qui n'est pas en accord avec les Saintes Écritures. Et à chaque fois, ça, tous peuvent le constater. Ceux qui utilisent le temps pour cela, à chaque fois qu'une doctrine est apportée, qui est tordue et tordue, alors on ne revient jamais aux Écritures. On ne passe pas seulement de verset en verset et au prochain verset. Non, d'une seule citation, ils en font une doctrine. Et leur prédication est fondée sur cette doctrine. Et cela n'a aucune valeur. Nous sommes simplement reconnaissants, très reconnaissants à Dieu pour sa parole dans son entièreté. Réellement, dans son entièreté. Il y aurait beaucoup de versets bibliques encore à lire. Maintenant encore, quelques pensées pour tous ceux qui sont dans des problèmes. à tous ceux qui aujourd'hui ont des problèmes dans le cœur. Parce que cela appartient à la partie de l'enseignement, et vous savez que l'enseignement est très important pour montrer la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, entre ce qui est biblique et ce qui n'est pas biblique. Il faut que tout soit aussi apporté. Mais il s'agit donc réellement de ce que nous qui nous qui vivons dans ce dernier temps important, nous devons comprendre que le diable laisse le monde entier tranquille, mais se concentre et se jette sur le peuple de Dieu pour réellement apporter la confusion partout et nous faire des problèmes. Et partout où on écoute, il y a réellement des problèmes. Aujourd'hui, nous voulons nous décharger. Aujourd'hui, nous voulons croire que le Seigneur est présent. Je me suis remarqué noté deux versets, l'un dans Jacques chapitre 5, où il est parlé du rétablissement de toutes choses, au verset 11, où ce que Dieu a fait en Job est mentionné dans Jacques 5, au verset 11. Et en quoi est-ce que nous devons apprendre combien de patience est parfois nécessaire pour que nous puissions réellement obtenir ce que nous demandons et supplions dans la prière. Ensuite, et que cela réellement se passe. Nous avons particulièrement ces deux versets dans Job, dans le livre de Job lui-même, dans Job le chapitre 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 17, où l'homme de Dieu, réellement, qui de manière injuste a été nuit par l'adversaire et jeté dans le doute et dans le désespoir, ne savait plus et n'avait plus de conseil. Et je pense que si nous lisons ce qu'il a dit autrefois, nous allons nous retrouver dans cette histoire. Nous allons quelque part nous retrouver dans cette description de nouveau. Lisons Job chapitre 16 à partir du verset 6. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Donc, c'est une douleur constante. Que nous parlons, que nous nous taisons, c'est une douleur constante. Ensuite, le verset 7. Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Oui, ça, c'était un état dans lequel Job de lui-même n'était pas entré, qu'il n'avait pas souhaité, désiré, et il ouvre tout son cœur et exprime ce qui le touche. Et ensuite, au verset 9, il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Au moment, Job n'avait pas encore compris et vu que c'était l'adversaire qu'il... C'était pas Dieu le Seigneur, c'était l'adversaire qui avait, qui était derrière tout cela, qui s'était jeté sur Job. Mais Dieu avait confiance à Job, il savait que quoi qu'il arrive, son âme n'a pas le droit d'être touchée. C'est ainsi que Dieu l'avait dit. Bien de mes frères et sœurs, l'adversaire n'a pas le droit de toucher à notre vie, à la vie que Dieu a mis en nous, à notre âme. Notre âme attend encore, notre corps attend encore la transformation. Mais notre âme a reçu déjà la pleine rédemption. Notre âme, le sang de l'agneau a coulé. Et nous appartenons à Dieu. Notre âme est transformée et nous avons reçu le plein salut dans notre âme. Mais comme je viens de dire, le corps doit encore passer ou bien passe encore par certaines difficultés et tribulations. Le verset 10. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Oui. Dieu me livre à la merci des impies. Verset 11. Ils me précipitent entre les mains des méchants. Combien de fois nous nous posons la question, pourquoi est-ce que ceci est comme ça et comme ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que je dois justement passer par de tels chemins? Bien sûr, tous nous aurons souhaité un chemin plus accessible. Mais Dieu ne va jamais permettre plus que ce que nous pourrons supporter. Et tout sert à ce que nous soyons blanchis et préparés. Et quand la restauration aura lieu, alors nous allons remercier Dieu pour chaque coup que nous avons reçu, pour tout ce qui nous est arrivé. Et par toutes les choses par lesquelles nous sommes passés, nous allons réellement seulement remercier Dieu pour tout. Car ici, s'accomplit vraiment. Quand tout se termine bien, alors tout va bien. Et Job n'aurait jamais pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'aurait jamais pu dire, quelqu'un s'est porté garant pour moi au ciel. Et ensuite les versets de Job 19, au verset 7. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de juste. Le chemin, il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Est-ce que vous remarquez que nous ne sommes pas les seuls qui passent par des chemins difficiles? Est-ce que vous remarquez que d'autres avant nous sont passés par des chemins difficiles? Ne cherche pas d'explication à ton chemin. Remercie Dieu de ce qu'il est avec nous, même dans ces chemins difficiles. Quoi qu'arrive, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Est-ce que cela n'est pas parfois notre état? Est-ce que ce n'est pas parfois des situations par lesquelles tous dans la vie, ou bien peut-être plusieurs fois dans notre vie, nous passons, où nous crions et il n'y a pas de réponse, où nous demandons de l'aide et il n'y a pas d'aide? Le verset 9 au verset 10, dans le chapitre 19, Job 19, verset 9, il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Oui, ça passe même par le mépris, par l'opprobre et par l'humiliation. Oui, ça c'est le chemin. Ça c'est le chemin de notre Seigneur. Ça a été le chemin de notre Seigneur lui-même. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de lui et avec lui? Oh, celui qui suit le chemin de souffrance du Seigneur et en esprit suit, il verra ce qui s'est passé et a été fait avec lui là-bas. Nous lisons au verset Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. N'avons-nous pas parfois l'impression que le Seigneur n'est pas avec nous? Il pourrait être plutôt contre nous à cause de tout ce qui se passe, parce que tout ne se passe pas comme nous aurions bien voulu l'avoir. Et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et nous nous plaignons et nous disons, Seigneur, combien de temps ça durera encore? Et ensuite, on pourrait continuer à lire au verset 15. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas, etc. Il se plaint jusqu'à que la lamentation prend fin. Le cantique de lamentation prend fin. Et ensuite, à partir du verset 21, suit le changement. Il dit, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez comme Dieu me poursuit? Il pensait que c'était Dieu qui le poursuivait. Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Maintenant arrive cette expression merveilleuse. Maintenant arrive, en fait, de quoi il s'agit ici pour nous. Au verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un bourrin de fer et avec du plomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça, c'est la chose merveilleuse. La chose merveilleuse. Il est dit ici encore, au verset 26, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Oui, alors ça veut dire que tout a servi à quelque chose. Rien ne la nuisit. Rien de la nuit. Mais bien, mes frères et sœurs, je suis arrivé à ces versets parce que partout il y a des problèmes avec les enfants, dans les familles, en tout. Et nous nous posons la question parfois, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas? Pourquoi est-ce que je dois passer par ce chemin? Et ensuite nous avons ici la réponse. Nous avons la réponse. Auparavant, tous les chemins difficiles, tous ces coups, tous ces incompréhensions et tout ce qui appartenait à cela. Et ensuite, je sais que mon Rédempteur vit. Je sais qu'il se lèvera en tant que le dernier sur la terre. Et après cela, moi, je le contemplerai. Même si ma peau aura été détruite. Oui, moi-même, je contemplerai Dieu. Ça, c'est digne d'entreprendre ce voyage dans ce chemin étroit. Si à la fin nous contemplons Dieu, que ce soit avec hôpital ou bien sans hôpital, quoi qu'arrive, ne te plains pas de ce qui t'arrive. Remercie Dieu dans toutes circonstances. C'est ainsi qu'il veut l'avoir de nous. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 14. Dites merci à Dieu dans toutes circonstances. Et si nous remercions Dieu, c'est comme ça qu'il nous secourra et qu'il nous montrera le chemin du salut. D'une manière que personne, réellement personne, qui a mis sa confiance dans le Seigneur ne sera confus. Même si parfois, entre temps, cela semble que l'adversaire apporte la confusion, C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Et que ici, on ne sait plus comment les choses devraient continuer. Lui, il a le dernier mot et il a un chemin pour nous. Là où toi et moi, tu ne vois plus de chemin, là, il a le conseil où les hommes et les médecins sont sans conseil. Ils ne savent plus. C'est là qu'il devient le grand médecin. C'est là qu'il les conseille, même aussi contre la mort. Et cela n'est pas seulement écrit dans le prophète. Cela a été confirmé. Il a vaincu la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il vit. Et nous vivons avec lui. Nous voulons résumer de quoi il s'agit aujourd'hui ici. Pour première chose, que Dieu le Seigneur, premièrement en tant qu'Église, nous veut nous joindre en tant qu'une union de fils et de filles de Dieu où il n'y a rien qui serait encore parmi nous ou bien entre nous qui pourrait nous séparer de lui ou bien des uns des autres, où chacun accepte et reçoit l'autre comme il est, tel que Dieu en Christ nous a reçus. Romains 15. Et que nous tous qui nous tenons dans ce combat, dans le combat spirituel, nous devons comprendre que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les princes et les esprits méchants et les dominations qui sont encore dans l'air, qui émettent leur domination dans l'air, mais qui sont déjà vaincus et même désarmés. Ça, je devrais même vous lire cela, pas seulement dans Éphésiens 6, mais dans Colossiens. Cela est une parole très merveilleuse. Pas seulement Éphésiens chapitre 6, que nous devons revêtir toutes les armures de Dieu, mais dans Colossiens, le chapitre 2, où le chemin nous est montré, le chemin et aussi ce qui s'est passé sur la croix. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Dites Amen. Rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dites Amen à cela. Amen. En effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant. Dites Amen à cela. La lettre de condamnation a été anéantie. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle a été déchirée. Anéanti, barré et anéanti. Il l'a anéanti, condamné et qui l'a subsisté contre nous. Il l'a éliminé, pas seulement effacé, mais éliminé en le clouant à la croix. Donc, c'est sur la croix que cela s'est passé. La lettre de condamnation n'existe plus. Le pardon a eu lieu pour nous et l'obstacle pour notre salut a été ôté. Et c'est dans Jésus-Christ que nous avons reçu le plein salut de Dieu. Pour encore confirmer cela, au verset 15, disons. Donc ce qui se tenait en obstacle pour notre salut a été éliminé. Au verset 15. Il a dépouillé, pas seulement dépouillé, en allemand c'est écrit désarmé. Vous pouvez dire amen à cela. Il a désarmé complètement les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'était pas seulement une victoire comme ça un peu, c'était une victoire parfaite, une victoire totale, une capitulation totale de la puissance de l'adversaire. Ici, je l'ai parfois dit, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les généraux et tous ces hommes militaires ont dû signer la capitulation, l'abandon. Ils ont dû signer. Ils ont dû rendre toutes les armes. Aucun soldat n'avait ne serait-ce que même un revolver. C'est nous qui les avions en tant que petits. Hein. Ça avait été apporté tout partout. Et aller dans la brousse avec toutes ses armes et faire tout un tas. Mais je veux dire, si la capitulation est là, alors il faut que toutes les armes soient rendues. Il n'y a rien, il n'y a rien. Les balles et tout. Le vêtement doit être dépouillé. Et on lève les mains. C'est comme ça que c'était aussi à la croix. Croyez-le. Même l'uniforme est dépouillé. Car seulement dans cette foi, à l'œuvre parfaite accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha, c'est ainsi que la foi devient la puissance de Dieu. Car c'est là que la puissance de Dieu a été manifestée. Et si ici il est écrit, d'abord il faut croire que l'adversaire est désarmé. Et que ici il est dit que toutes les dominations et les principautés ont été désarmées. Parfaitement, totalement, entièrement. J'ai vu cela de mes propres yeux. Après la Deuxième Guerre mondiale, le général est sorti, monsieur Sroka, du bâtiment de monsieur Frolich, ce grand possesseur. Nous avons vu comment est-ce qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les choses se sont ont eu lieu. Ils ont capitulé, ils ont abandonné, ils ont rendu les armes, ils ont été amenés en captivité, en prison. Et voilà, le Seigneur aussi a ouvert les captifs et il nous a donné des dons, comme c'est écrit dans Ephésiens 4. Bien-aimés frères et sœurs, la foi doit devenir vivante, car Jésus-Christ est vivant et nous avec lui. Et nous devons commencer à remercier Dieu. Et tel que dans Job nous avons lu, ça, c'est en grande partie notre histoire. Et ça, je vous le dis, celui qui n'est pas encore passé par des épreuves, il va encore les recevoir. Il va encore les recevoir. Donc, ayez de la patience, ayez de la compréhension les uns pour les autres. Que l'un ne juge pas l'autre, si ce n'est que nous sommes passés dans la même situation. Et alors, nous ne jugeons même pas. Même si nous sommes passés par la même situation, nous ne jugeons pas. Mais nous prions les uns pour les autres et nous croyons les uns pour les autres. Pour que Dieu puisse avoir son chemin avec nous tous. Car quand un membre est honoré, tout le corps se réjouit, car tous sont bénis. Et si nous sommes tous bénis, alors tout va bien pour chacun de nous. Même si les choses sont allées parfois mal pour nous, nous ne regardons plus aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car nous marchons par la foi. C'est ainsi que c'était, je vous dis bien, mes frères et sœurs, la dernière partie, la pure prédication de la parole de Dieu. Et ce que nous venons de considérer là, dans Colossiens 2, tant que cette parole demeure en nous. Aucun mélange ne pourra se filtrer. À cet endroit, il faut qu'il y ait une confiance parfaite en Dieu et en sa parole créée en chacun de nous. Nous ne sommes pas en train de courir après des femmes habilement conçues, mais la parole de la vérité. Et nous avons reconnu la vérité. Et la vérité nous a rendus libres. Jean 8, verset 36, et ça encore, je voudrais le dire, aussi le verset 30. Dieu nous a aussi accordé la grâce d'ordonner la parole, de la mettre à sa place, comme Paul pouvait dire à Timothée, tu es versé dans les Écritures, et ce sont elles qui te feront comprendre ce que je t'ai dit. Et aussi, Pierre le dit, et tous ces différents sujets bibliques sont éparpillés dans les différents versets dans la Bible. Ils doivent être réunis ensemble pour avoir une vie d'ensemble. Et que ils aillent ensemble, ils vont ensemble. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la révélation de sa parole, pour Golgotha, pour de ce que l'acte de condamnation est anéanti, annulé, n'a aucune valeur, que Dieu soit loué, de ce que les principautés des ténèbres avec lesquelles nous avons à combattre sont déjà vaincus. Loué soit le Seigneur qui nous a accordé la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ainsi que nous voulons porter la parole de notre Seigneur dans notre cœur. Et c'est par la foi qu'elle deviendra la puissance de Dieu à nous tous, à lui, le Dieu Tout-Puissant. Qui nous a visité dans un temps où tout est confondu, tout est désordonné, où il y en a qui disent que, et écrivent qu'il n'y a pas un seul Dieu unique, véritable, où il y en a qui disent qu'on doit mettre de côté et mettre de côté, oui, annuler le sacrifice d'expiation de Christ. Nous, nous crions en tant qu'ambassadeur de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, croyez à l'évangile. Croyez à la puissance de Dieu. Nous voyons l'incrédulité. Nous voyons l'abomination. Et nous voyons comment est-ce que tout cela s'accroît. Et le blasphème. Mais en nous et parmi nous, la parole doit s'accroître. Et prendre forme en nous. La confiance en Dieu doit s'accroître et grandir et édifier en nous. Et bien, mes frères et sœurs, devenez toujours plus grands. Et vous tous qui êtes ici aujourd'hui, avec des problèmes, dans la famille, avec des propres problèmes, et quoi que ce soit, acceptez cela de la main du Seigneur aujourd'hui. Que ceci est le jour que Dieu a fait. Le jour qu'il a fait pour toi, pour moi, pour nous. Aujourd'hui, nous allons prier pour tous qui appartiennent à toutes les familles. Priez pour tous ceux qui sont déterminés à hériter la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons prier et aujourd'hui, Dieu va exaucer et nous allons voir le bras de l'Éternel et la droite de l'Éternel élevée. Car la droite de l'Éternel demeure élevée jusqu'à que la pleine victoire de Dieu soit visible. Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia.
Nous voulons nous lever et prier.
Et comme déjà si souvent, nous voulons peut-être maintenant chanter ce chœur. Je prie pour une nouvelle expérience.
Maintenant, nous allons tous prier ensemble et élever nos voix. Oui. Frère Rousse, viens, prie. Père Céleste, nous venons ensemble devant toi, à toi, et tu connais chaque problème, et tu sais de quoi il s'agit. Tu sais, Seigneur, tu vois ton peuple, comment est-ce qu'il doit passer par des douleurs et les choses par lesquelles il doit passer. Que tu puisses accorder ta grâce, ô Seigneur, et faire miséricorde, comme un Job, comme un Job. Alléluia. Accorde la victoire totale sur tout l'adversaire. Que tout l'adversaire soit sous le marche-pied, sous ton marche-pied, parmi nous. En ton nom, nous croyons ta parole. Nous croyons ta parole. Alléluia. Petit et grand, croyez tous, croyez que tu puisses avoir ton chemin soit la solution, la réponse, la guérison, la délivrance, le salut. Oh Seigneur, accorde tout. Accorde tout. Alléluia. 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 Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Secours ton peuple partout, dans tous les endroits. Rentre, viens dans toutes les maisons, dans toutes les familles, dans chaque endroit. Oh Seigneur, alléluia, nous t'invitons. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Nous proclamons la victoire de Dieu sur le peuple de Dieu. La victoire totale. Tu es vainqueur sur la mort. Adoration soit à ton nom, toi qui es au-dessus de tout nom. Ta victoire est notre victoire, ta parole est notre parole. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Bien-aimé Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur. Gloire à Dieu le Seigneur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur. Cela brise toutes les difficultés. Jésus est vainqueur. Dans toute l'éternité. Pour moi, Jésus a déjà préparé la victoire. Alléluia. Alléluia. Je suis racheté par son sang. Alléluia. Alléluia. Comme je suis heureux. Alléluia. Alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est merveilleux d'être